Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonjour et bonsoir, amis auditeurs, selon l'heure que vous nous suivez. Ravi de vous retrouver en ce dimanche 5 décembre 2021. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Iran-États-Unis, l'impossible deal. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. À la une de ce journal, le tir de missile près de Natanz, un test de système de défense aérienne selon un responsable militaire de la République islamique d'Iran. Le conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis attendu à Téhéran. Enfin, plusieurs explosions dans la base américaine d'Al-Tanf en Syrie. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le tir de missile près de Natanz, un test au système de défense aérienne iranienne. Le tir de missile du système de défense aérienne à la périphérie de Badrout était une affaire de défense interne dans un but de préparation et il n'y a pas lieu de s'inquiéter, a déclaré le commandant de la surveillance de défense aérienne de Natanz. Dans une interview accordée à l'IRNA samedi soir, le capitaine Ali Moazeni a ajouté « Le ciel de l'Iran islamique est en toute sécurité avec la vigilance des forces du CGRI et des forces de défense aérienne de l'armée et toute menace des ennemis se heurtera à une réaction décisive et réponse ferme des forces militaires de l'Iran islamique ». Le bruit d'une terrible explosion a été entendu dans le ciel de Badrout, à une distance d'environ 20 km du site nucléaire Shahid Ahmadi Roshan de Natanz. Les habitants de Badrout ont remarqué hier soir le bruit et la lumière d'un objet explosant dans le ciel de cette ville. Le conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis attendu à Téhéran. Le conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis arrivera demain à Téhéran à l'invitation officielle du secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale. Cheikh Tahnoun Ben Zayed, conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis, arrivera demain à Téhéran à l'invitation officielle de l'amiral Shamkhani, représentant du guide suprême et secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale. Lors de cette visite, en plus de rencontrer son homologue iranien, le responsable émirati rencontrera et s'entretiendra avec certains hauts responsables de notre pays. La présence de la marine iranienne dans les eaux et océans internationaux témoigne du pouvoir dissuasif et des fortes capacités défensives de l'Iran, a déclaré le coordinateur adjoint de l'armée de la République islamique d'Iran, l'amiral Habibullah Sayari. Se référant à la présence de poids de la marine iranienne dans l'océan Atlantique, l'amiral Habibullah Sayari a déclaré « Il y a 8 ans, nous avons proposé au commandant en chef des forces armées, l'honorable Ayatollah Khamenei, leader de la République islamique d'Iran, d'être présent dans l'océan Atlantique. Il a approuvé notre demande qualifiant d'importante notre présence dans les eaux libres du monde. » la présence dans les eaux et les océans internationaux et le fait de se rendre au port de Saint-Pétersbourg montrent que la marine iranienne a les connaissances et le savoir-faire nécessaires face aux menaces des ennemis, a-t-il noté. Les signataires occidentaux de l'accord nucléaire de 2015 ont exprimé leur consternation face aux demandes de l'Iran lors de la dernière série de pourparlers entre Téhéran et le groupe 4+1 à Vienne la semaine dernière. La Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne accusent l'Iran de faire marche arrière sur les progrès diplomatiques réalisés lors des précédents cycles de pourparlers. Ils affirment que l'Iran cherche des changements majeurs au texte négocié et a déposé des demandes qui vont à l'encontre des termes de l'accord nucléaire. Un haut responsable du département d'État américain, qui s'exprimait sous le sceau de l'anonymat, a également affirmé que l'Iran était revenu sur toutes les concessions qu'il avait faites lors des pourparlers précédents. Le responsable a ajouté que l'Iran avait également demandé des compromis supplémentaires à d'autres parties dans ses dernières propositions. Téhéran affirme que ces suggestions sont pleinement conformes aux termes de l'accord nucléaire et à la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU qu'il a approuvée, ainsi qu'aux accords précédents avec les 4+1. Le président iranien Ebrahim Raisi a appelé à l'élargissement des relations entre Téhéran et Caracas. Lors d'une conversation téléphonique avec le président Maduro, Raisi a déclaré que les deux pays devraient accroître leurs relations économiques et le volume de leurs échanges. Il a également appelé à une plus grande coopération pétrolière entre les deux pays. Le président iranien estime que les deux pays doivent prendre des mesures plus importantes dans les domaines du raffinage et de la pétrochimie. Il a également critiqué les sanctions de Washington contre Caracas. Maduro a de son côté salué le soutien de l'Iran au peuple vénézuélien et a espéré que Téhéran et Caracas signeraient de nouveaux accords de coopération. Dernière nouvelle en provenance de Syrie où de multiples explosions ont été entendues depuis l'intérieur d'une base américaine dans la région d'Al-Tanf. Jusqu'à présent, les détails n'ont pas été publiés sur ces déflagrations. La base d'Al-Tanf se trouve dans la province méridionale de Homs, près de la frontière avec l'Irak. En octobre, la même base a été ciblée dans ce que les responsables américains ont appelé une frappe coordonnée de drones. Cette attaque n'a fait aucune victime. Les États-Unis gardent la base en Syrie sans l'autorisation de Damas et ont établi unilatéralement dans un rayon de 55 km autour de la ville une zone de sécurité dite « zone de déconfliction » où toute intrusion est considérée comme menaçante. Enfin, le détenu palestinien Kayet Fasfous sort enfin d'une prison israélienne et rentre chez lui auprès de sa famille après une grève de la faim prolongée. Il a passé plus de 18 mois en prison sans procès. Fasfous a refusé de manger pendant 131 jours en signe de protestation. Le Palestinien de 32 ans a mis fin à sa grève le mois dernier après qu'Israël a accepté de mettre fin à sa détention administrative. Face à de nombreuses critiques internationales, le régime sioniste a également accepté de libérer plusieurs autres Palestiniens qui ont fait de longues grèves. Les Nations Unies ont exprimé leur inquiétude quant à la vie des grévistes de la faim. Israël utilise la détention administrative pour emprisonner pour une durée indéterminée des Palestiniens sans inculpation ni jugement. Mais la pratique est illégale en vertu du droit international. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Reste avec nous. Merci. Pourquoi les États-Unis ne lèveront pas les sanctions et pourquoi l'Iran ne dealera jamais avec les Yankees? Et si les tergiversations US à faire place nette dans la région, tergiversations qui a valu au Pentagone la mise en garde catégorique du commandant en chef de la force Rhodes, jeudi, général Rahani, lequel commandant a menacé des États-Unis d'une défaite encore pire que celle qu'ils ont subie en Afghanistan s'ils ne débarrassent pas les environs de l'Iran avec quelque chose, avec les corridors. D'une ceinture et d'une route, tout le monde parle, mais d'autres routes, on n'attend que très peu parler. Après l'effondrement de l'Union soviétique et l'union des deux Allemagnes, alors que certains parlaient de la possibilité de relancer une route reliant l'Allemagne au Moyen-Orient, dit le chemin ferré Berlin-Bagdad, les Américains se sont précipités pour en détruire une grosse partie composée de voies ferrées et de ponts via la première guerre du Golfe Persique. Vint cette fatidique année de 2014 et la montée en puissance de Daesh, projet éminemment américain et israélien. Curieusement, Daesh s'intéressait aux voies ferrées irakiennes et c'était là qu'il focalisait ses efforts de destruction. À présent, l'Allemagne d'antan est désormais soumise, s'est fait remplacer par la Chine. Cette fois, à la place du chemin de fer Berlin-Bagdad, c'est le corridor, une route, une ceinture qui inquiète les anglo-saxons. Que fait là-dedans l'Iran? Deux corridors distincts sont actuellement en cours d'aménagement. Le premier corridor, appelé Azurpat, est suivi par la Turquie et relie les pays turcophones. L'achèvement d'une partie importante de ce corridor nécessite la connexion de la République d'Azerbaïdjan au Nakhchivan et de là à la Turquie. C'est ce qui a conduit à de nombreux heurts et frictions liées aux récentes batailles dans le Caucase du Sud. La partie la plus négligée de ce corridor est le corridor Zangzur qui s'étend dans le sud de l'Arménie. Plus au sud, c'est le corridor méditerranéen arabo-méditerranéen vers l'Europe qui est sur le point de se développer grâce à ce corridor qui commence depuis Mumbai. Les marchandises indiennes transitent vers le continent européen dans un délai record de moins de 10 jours, soit 40% plus rapidement que la route maritime qui transite par le canal de Suez. L'Iran peut à la fois servir dans le cadre de la route reliant l'Asie centrale et la Chine à la Turquie et constitue le début du couloir iranien vers le port de Beyrouth. Ce dernier itinéraire part d'ailleurs de l'Iran et atteint la mer Méditerranée via la connexion des chemins de fer irakiens et syriens dans le port de Beyrouth. Une telle route est pratiquement plus courte que les autres routes et est située le long des principaux gisements de pétrole et de gaz d'Iran et d'Irak. Des inquiétudes concernant le lancement de ce corridor ont peut-être amené la Syrie et l'Irak à traverser l'une de leurs périodes historiques les plus turbulentes ces 10 dernières années. Un processus qui s'est poursuivi avec l'explosion massive de nitrate d'ammonium dans le port de Beyrouth, un port qui pourrait servir de concurrent sérieux au port de Tel Aviv en Palestine occupée. Les États-Unis, en tant que puissance navale, feront tout leur possible pour empêcher le développement de corridors terrestres au Moyen-Orient. En fait, cette stratégie de chaos organisé et de destruction dans les pays se trouvant sur l'axe de ce corridor devrait s'interpréter en ce sens. Certes, cette politique inclura l'Afghanistan après l'ère Ashraf Ghani afin que le possible passage Vakan-Herat vers l'Iran ne se concrétise pas, tout comme les Américains et les Saoudiens encouragent le Pakistan à acheter du gaz via l'Afghanistan et le gazoduc Tapi pour que l'Iran continue de se voir interdire de toute possibilité de connecter son réseau gazier au Pakistan. C'est avec une telle analyse que l'on peut voir la présence continue des États-Unis dans la région d'Al-Tanf ainsi que dans le nord-ouest de la Syrie. C'est précisément là que les Américains, avec leur présence militaire directe, cherchent à surveiller le corridor Téhéran-Beyrouth et à empêcher tout transfert contre les intérêts américains. Avec tout ce qui précède, il est clair que les Américains ne finiront jamais par lever les sanctions contre l'Iran de façon à ce que les investissements arrivent sur le marché iranien. C'est pourquoi l'accord de 25 ans entre l'Iran et la Chine a immédiatement suscité un tollé chez les Yankees et qu'à Vienne, le fait de brandir la perspective d'une coopération Iran-Chine a créé la totale confusion au sein du camp pro-US. Alors, un deal US-Iran, est-ce possible?
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat. Le septième cycle des pourparlers entre l'Iran et les signataires de l'accord nucléaire de 2015 s'est déroulé au cours des derniers jours à Vienne, capitale autrichienne. En effet, au cours de ces négociations de 5 jours, la République islamique d'Iran a présenté 2 propositions. L'une sur la levée des sanctions unilatérales illégales des États-Unis après le retrait de l'accord nucléaire en 2018 et l'autre sur les questions nucléaires. Le dernier jour, c'était vendredi, les représentants des pays participants ont retourné dans leurs capitales respectives pour des consultations politiques et reviendront de nouveau à Vienne, en effet, pour la poursuite des négociations. Dans ce contexte, le chef de la diplomatie iranienne s'est déclaré sceptique, en effet, quant à la véritable intention des États-Unis et de leurs partenaires, de leurs alliés plutôt occidentaux, en effet, d'honorer leurs obligations dans le cadre de l'accord. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur ce nouveau cycle, le premier, en effet, depuis l'entrée en fonction du nouveau gouvernement iranien, sur la relance de l'accord nucléaire, plutôt sur la levée, en effet, des sanctions américaines. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
L'équipe de négociateurs iraniens a réagi avec colère au communiqué de l'équipe américaine. En lisant le communiqué du diplomate américain Robert Malley, le représentant d'un pays européen a mis en colère la délégation iranienne qui a durci le ton contre la lecture du communiqué d'un pays qui ne fait pas partie des négociations. « Ne nous menacez pas », a martelé la délégation iranienne, indique le Middle East Eye. Suite à cette réaction virulente, le représentant européen qui lisait le communiqué a assuré les Iraniens que le texte ne serait plus lu, selon la même source. Le Middle East Eye a également révélé que lorsqu'un diplomate européen a accusé l'Iran d'intransigeance, la délégation chinoise n'a pas tardé à dénoncer les politiques de deux poids deux mesures de l'Occident vis-à-vis des questions liées à l'énergie nucléaire en faisant allusion aux accords AUKUS. La partie européenne a ensuite réclamé le report de la réunion à une date ultérieure, ce qui n'a pas été accepté par les Iraniens, soulignant qu'ils doivent bientôt quitter Vienne à destination de Téhéran. Les négociations se sont donc poursuivies. Ali Boreri, vice-ministre iranien des Affaires étrangères et négociateur en chef de la délégation iranienne pour les négociations de Vienne, a déclaré lors d'une interview accordée au Middle East Eye que la balle était actuellement dans le camp des Américains. La levée de toutes les sanctions anti-iraniennes de manière concrète et vérifiable est à l'ordre du jour de l'équipe iranienne. Le 28 novembre, le représentant chinois auprès des organisations internationales Wang Kun a rappelé que la livraison de technologies de sous-marins nucléaires à l'Australie relevait d'une question à traiter en urgence par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Pourquoi les États-Unis et le Royaume-Uni prétendent-ils que l'Iran n'a pas le droit de produire de l'uranium enrichi à plus de 3,7% alors que d'un autre côté, il transfère ouvertement et directement des tonnes de matière hautement enrichie à 90% et destinée à la fabrication d'armes nucléaires vers l'Australie. C'est un cas classique de double standard, a souligné le diplomate chinois dans une lettre qu'il a publiée afin de protester contre les politiques des deux poids deux mesures des États-Unis vis-à-vis du nucléaire iranien.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Permettez-moi de vous présenter tout de suite nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Toulouse avec Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue français, et depuis Bruxelles avec Xavier Dupré, économiste et analyste politique. Monsieur Dupré, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, c'est moi qui vous remercie.
Alors, comme vous le savez, un nouveau cycle de négociations nucléaires vient de se terminer hier à Vienne, capitale autrichienne. Bien sûr, les deux parties, en effet, ont souligné la nécessité de poursuivre les négociations. Alors, à premier abord, il s'agissait pour les deux côtés d'une approche plutôt positive. Toutefois, en effet, des questions en suspens persistent toujours. Et la question principale, l'intention et la volonté sérieuse des parties engagées, des parties occidentales, et à leur tête les États-Unis, de vouloir lever en effet les sanctions. Quel premier regard, Monsieur Dupré, portez-vous sur ces négociations?
Alors, je crois qu'il faut d'abord préciser qu'il s'agit d'un premier round d'observation. On s'est testé de part et d'autre. Il est très clair que les États-Unis ont voulu tester la partie iranienne. Se sont montrés, d'ailleurs, soit dit en passant, bien très arrogants. On savait que ça allait se produire comme ça, que ça allait se passer comme ça. Il fallait s'y attendre, en tout cas, c'était très prévisible. Ils ont une tentative, ils accusent sans cesse l'Iran de vouloir dénaturer l'esprit des accords de 2015. Bon, de ce point de vue-là, les États-Unis le dénaturent terriblement, puisque de toute façon, aujourd'hui, ils n'offrent aucune sécurité pour pérenniser ces accords, donner des garanties de pérennité, et voudraient, paraît-il encore, porter la durée d'application de ces accords de 15 à 25 ans. Donc il y a vraiment là une manière de vouloir porter atteinte à une certaine forme de souveraineté de l'Iran, et ces exigences ne sont appuyées par aucune espèce de plan crédible de sortie des sanctions. Il n'y a même pas un petit geste qui est proposé, rien. Donc dans ces conditions, on peut dire que l'Iran a fait preuve de fermeté, les Européens veulent continuer à négocier, et nous sommes ici dans une phase très particulière, c'est-à-dire qu'on voit clairement que la question iranienne va être de plus en plus corrélée à la relation, aux tensions, aux difficultés qu'ont les États-Unis avec la Russie. La Russie qui s'est terriblement réaffirmée du point de vue de sa souveraineté depuis une quinzaine d'années. On sent aujourd'hui beaucoup de tensions avec l'Ukraine et ça se reporte sur l'ensemble des dossiers qui, concernent la relation entre la Russie et les États-Unis. Et sachant par ailleurs que sans l'alliance entre la Russie et l'Iran, la Syrie serait aujourd'hui un champ de ruines. Donc il y a une présence très forte, une alliance très forte de la Russie et de l'Iran en Syrie. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, ça complique les choses. Les Européens, malgré tout, sont au maximum de leur capacité de courage. Ils veulent continuer à négocier, alors qu'on sent bien de la part des États-Unis une volonté de durcir le ton. Alors je crois qu'il faut être très clair en termes prospectifs. Vous savez, le jour où l'Iran sera en mesure d'enrichir de l'uranium à plus de 90%, et les États-Unis le savent bien, il faudra que les Occidentaux procèdent, consentent à d'immenses concessions. Donc, les États-Unis savent bien qu'à un moment donné, ils vont devoir concéder beaucoup d'éléments de dossier, ils vont devoir procéder à beaucoup de concessions. Donc là, pour le moment, ils sont un peu dans de la musculation, mais ils sont coincés par la réalité même des immenses progrès technologiques de l'Iran, qui est une grande puissance émergente. Et donc, de ce point de vue, ils devront mettre de l'eau dans leur vin tôt ou tard. Et il y a aussi un élément important qui sont les pressions de l'administration Bennett, de l'entité sioniste. Là, c'est très clair. À partir du moment où les tensions sont fortes entre la Russie d'une part et les États-Unis d'autre part, eh bien, Israël vient, une fois de plus, jeter un peu plus de discrédit sur le processus, parce que cela va dans le sens de ses intérêts. Mais on n'est pas dans une phase, on peut dire que le blocage est réel. Il y a une musculation de part et d'autre. Et de ce que je note, la ligne de l'Iran, depuis l'élection du président Raïsi, qui est une ligne de fermeté, de cohérence et de clarté, a déjà fait sortir les Européens hors du bois. C'est donc une ligne politique qui paie. Elle finira par payer avec les États-Unis. Il faut continuer dans ce sens.
Merci infiniment pour ces précisions. Monsieur Dupré, restez avec nous. On va tout de suite rejoindre à Toulouse Monsieur le professeur Pierre Dortguier, philosophe et politologue français. Monsieur le professeur, bonjour et merci infiniment d'être en ligne avec nous.
La Vendée, bonjour à tous vos auditeurs et à Monsieur Dupré, dont j'ai entendu les explications avec grand intérêt.
Monsieur Dupré, alors, l'a rappelé, monsieur le professeur, ces négociations, alors, se sont déroulées dans une phase particulière, bien sûr. Comme monsieur Dupré l'a fait remarquer, il ne s'agit pas d'une situation de blocage réel, mais là, il s'agit d'une phase particulière. Alors, les États-Unis en quelque sorte, se sont engagés dans ces nouvelles négociations avec leur arrogance traditionnelle, ont tenté de durcir le ton. L'Arabie islamique d'Iran a fait preuve de fermeté et les Européens, comme disait M. Dupré, se sont engagés avec leur capacité maximale pour faire aboutir les négociations. Ceci étant dit, alors, comment évaluez-vous les approches adoptées par les parties engagées dans ces négociations, monsieur le professeur?
Il semble, monsieur, que ce que nous appelons les sautes d'humeur américaines sont en réalité assez superficielles et visent à calmer certainement les groupes d'influence venant d'Israël, par exemple, entre autres, surtout d'ailleurs pour le Proche-Orient. Mais je ne crois pas que les États-Unis veuillent bloquer les négociations. Il semble que, disons, eux et les Européens savent que toute négociation là-dessus devrait être un jour close, c'est-à-dire qu'il faudra arriver à une sorte à une diminution totale disparition des griefs qui ne sont que des suspicions contre l'Iran et qui ne repose absolument sur aucune base, il est certain que l'Iran a tout à fait le droit de devenir cette puissance atomique, que l'enrichissement est tout à fait normal de l'atome et que il ne s'agit pas du tout. Je rappellerai quelque chose de très simple, c'est que ceux qui craignent, disons, l'armement de l'Iran, l'armement atomique, que celui-ci a été condamné non seulement par une déclaration de l'Ayatollah Khamenei, mais déjà en son temps, j'en ai eu la preuve dans la presse, une presse anglo-saxonne, par l'imam Khomeini. C'est-à-dire que c'est à la base même de la République islamique d'Iran que la condamnation, disons, de l'armement atomique est posée, disons, enfin. C'est disons constitutif, si je puis dire. C'est corrélatif, consubstantiel. Alors donc, tous les États-Unis le savent très très bien. Ils ne craignent absolument pas que l'Iran devienne une puissance nucléaire, possédant d'armes nucléaires. Non. Mais ils sont obligés de faire face à ceux qui, à l'intérieur d'eux-mêmes, disons, sèment le trouble, disons. Et c'est la même chose pour les Européens. Je remarque dans la présentation qui a été faite, le rôle, l'argumentation intéressante, nette de la Chine, par exemple. Et je dois dire que la comparaison entre cette exportation d'armes, disons, de la part des anglo-saxons en Australie, etc., comparée au degré même de l'enrichissement de l'Iran et sur lequel on fait tellement, tellement de tapage est tout à fait évident, concluant. Il est certain qu'en fait, il n'y a absolument rien, il n'y a aucun obstacle à ce qu'une négociation aboutisse à un règlement, à une reconnaissance, disons, des droits de l'Iran. Mais simplement, ce sont des intrigues extérieures, voyez-vous, qui n'ont rien à voir avec le fond de la question. Les Européens le savent, les États-Unis, en effet, la Russie joue de son poids, mais je remarque que la Chine, ici, s'est manifestée, disons, d'une manière très diplomatique, très opportune, et je crois qu'il faut compter avec elle.
Merci pour ces éclairages, monsieur le professeur. Restez avec nous, s'il vous plaît. Monsieur Dupré, alors au jeudi, au quatrième jour des négociations, l'équipe négociatrice iranienne a présenté deux propositions, l'une sur la levée des sanctions et l'autre sur les questions nucléaires. Quelle pourrait être la réponse des parties engagées, je veux dire, des parties européennes à ces propositions de la République islamique d'Iran, premièrement? Et deuxièmement, pourquoi la République islamique d'Iran a toutes les raisons de demander des garanties concrètes, en effet, de la part des États-Unis et de leurs partenaires européens dans ces négociations?
Alors, je vais d'abord commencer par répondre à votre deuxième question. Sur la nécessité de garanties pour pérenniser les mécanismes de contrôle, mais en même temps la philosophie même des accords, je crois qu'il faut simplement regarder quel a été le positionnement face à ces accords des États-Unis depuis 2015. En 2015, on signe, en 2018, trois ans plus tard. Bon, ces accords étaient censés durer 15 ans à l'origine. Trois ans plus tard, les États-Unis en sortent. Ils remettent unilatéralement une volée de sanctions qui était inédite par leur ampleur et leur violence sur l'économie irakienne, ils remettent ça en œuvre. Donc, les États-Unis, alors pendant un an, la République islamique d'Iran s'est absolument abstenue de sortir du plan du PGNC. L'Iran n'est pas sorti. Il attendait une réaction des Européens pour remettre le processus sur les rails. Devant la fermeté et l'unilatéralisme de l'administration Trump, qui était assez particulière de ce point de vue-là, les Européens ont décidé très courageusement de se coucher sous la table. Donc évidemment, dans ces conditions, il est normal et il est légitime que l'Iran demande que des garanties soient apportées par les parties au PGAC, sachant par ailleurs qu'à l'intérieur du groupe très restreint, des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Russie et la Chine sont favorables à une pérennisation de ces mécanismes pour sortir précisément des crises liées à l'unilatéralisme des États-Unis. Donc il y a là une nécessité fonctionnelle. N'importe quel juriste spécialiste en droit international, ce que je ne suis pas d'ailleurs, je suis un analyste des relations internationales, devant le simple relevé des faits concernant l'attitude des États-Unis, eh bien, l'évidence s'impose à l'esprit. Il faut du mécanisme évaluatif et une série également de garanties qui doivent être posées pour verrouiller ces accords. Sinon, on est toujours dans une espèce de prise en otage, si vous voulez, de ces accords par d'éventuelles alternances qui mettraient à nouveau en selle, remettraient en selle l'aile droite du Parti républicain. Cela ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas prendre le monde en otage. Alors, maintenant, concernant le plan qui a été posé par l'Iran. Alors, je crois que de plus en plus d'Occidentaux se rendent compte... Alors, d'abord, concernant les sanctions, puisque c'est une double proposition. Donc, la proposition concernant les sanctions. Je crois qu'il y a vraiment, de la part de l'Iran, il y aura des réponses qui vont devoir être apportées dans les semaines qui viennent. On verra la clarification qui sera apportée. Mais je pense que, de toute manière, aujourd'hui... si vous voulez, dans l'esprit de pas mal d'Occidentaux, y compris aux États-Unis, on constate bien que la politique de sanctions est un échec. Donc, l'Iran progresse, l'Iran se développe, l'Iran est une grande puissance technologique, et même nucléaire. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'à un moment donné, il faudra bien que les États-Unis fassent un geste, ne fût-ce même que pour relancer la dynamique de négociation. Vous savez... Il y a 10 milliards de dollars en Corée et au Japon qui correspondent à des factures qui doivent être encore acquittées par les importateurs de pétrole de ces pays à destination de l'Iran. C'est-à-dire que quelque part, les États-Unis encouragent des gens aujourd'hui à ne pas payer leurs fournisseurs. Donc quelque part, il y a vraiment matière là à débloquer la situation et à rendre justice à l'Iran. En tout cas, à commencer par une levée progressive des sanctions. Alors, concernant le nucléaire, vous savez, aujourd'hui, dans les centrales nucléaires, on est à un taux d'enrichissement de l'uranium à 5%. Donc déjà, la limite de 3,5% n'est pas complètement compatible avec le bon le fonctionnement le plus efficient possible d'une filière nucléaire. Les Occidentaux le savent. Et il faut aussi se rendre compte d'une chose, c'est que, vous savez, aujourd'hui, la peur des Occidentaux, il faut lire le New York Times lorsqu'il parle de ces négociations, la peur des États-Unis n'est pas que l'Iran et la bombe, pour toutes les raisons très profondes au niveau philosophique et théologique qu'a énoncé M. le professeur d'Ortiguier. La peur des États-Unis, c'est que l'Iran soit arrivé au seuil nucléaire, soit capable, avec un taux d'enrichissement de 90%, d'éventuellement passer à la fabrication d'armes atomiques. Or, aujourd'hui, le temps presse, et c'est sur les Occidentaux que le temps presse, car le formidable potentiel technologique iranien fait qu'aujourd'hui, l'Iran est à un potentiel d'enrichissement de l'uranium de 60%. Pour passer au seuil de 90%, être un threshold state, comme disent les Américains, un état seuil sur le plan nucléaire, il faut 1 ou 2 mois.
Donc, merci.
Vous savez, les propositions de l'Iran, ce sont des propositions qui sont appuyées par une fermeté et un progrès technologique. Et les Occidentaux en prennent bonne note. C'est tout. Ces gens
merci.
Ne sont pas idiots.
Merci, merci encore. Monsieur Dupré, une toute dernière question à Monsieur le professeur d'Ortiguier. Monsieur le professeur, étant donné alors la double proposition de la République islamique d'Iran, et tout en sachant que l'administration américaine cherche, d'ailleurs l'a montré au cours des dernières années, par tous les moyens possibles, trouveront en effet des prétextes pour se dérober à leurs responsabilités, étant donné que ces négociations, en effet, constituent également un test de souveraineté, en effet, pour les parties européennes. Oui. Comment prévoyez-vous la perspective, en effet, de ces pourparlers, M. le professeur?
Je pense que ces pourparlers seront, par une force interne, devront continuer. Car les Européens, que vous citez justement ici, ont intérêt aussi à ne pas perdre la face. Pour des raisons économiques, pour des raisons de prestige aussi, n'ont pas intérêt à perdre la face. Et je crois que c'est... ils considèrent, si je puis me permettre de rentrer dans leur psychologie, qu'une rupture des négociations et la continuation, bien sûr, des sanctions qui accompagnent cela, affaiblirait la force des États européens eux-mêmes. Voyez-vous, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'ils céderaient aux États-Unis toutes leurs capacités, mais les Européens seraient dans l'incapacité de faire face, disons, à des besoins. Et il est certain que la satisfaction de ces besoins économiques passe par la reconnaissance. C'est quand même presque une sorte d'évidence enfantine, si je puis dire, de la présence de l'Iran. Et je crois que la présence de l'Iran est une présence qui est affirmée, une présence technologique, une présence, disons, qui est nécessaire, peut-on dire, à l'équilibre international. Je crois que c'est à ce niveau-là que les Européens réagissent. Je n'en veux comme preuve, d'ailleurs, je dirais rapidement ceci, notre ancien diplomate, plutôt c'était le chef de notre diplomatie, M. Hervé Védrine, interrogé, et qui a dit que l'Iran était appelé à devenir une grande puissance incontournable, et je crois que c'est le sentiment de M. Védrine, qui a été longtemps, vous savez, à la tête de notre diplomatie au moment de la coopération, disons, entre la gauche et la droite en France. Je crois que c'est un sentiment, disons, qui n'ira que croissant. Et les États-Unis seront obligés, je crois que les États-Unis ne peuvent pas entièrement jouer le rôle du diable, si vous voulez. C'est-à-dire que quand ils s'efforcent de gronder contre l'Iran à la table des négociations, ils ne font que, répondre à des pressions exercées à l'intérieur de leur propre pays ou sur leur propre pays par certains groupes. Mais je crois qu'il y a une tendance, tant en Occident qu'aux États-Unis, disons, de considérer l'Iran comme une grande puissance avec laquelle il faudra compter dans l'avenir. Ceci, je crois, ça c'est la réalité, c'est le devenir, si je puis dire. Il ne faut pas, pour cette raison, trop se fixer à des humeurs du présent.
Monsieur le professeur Pierre d'Ortiguier, philosophe et politologue depuis Toulouse, Xavier Dupré, analyste politique, économiste depuis Bruxelles, merci infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée. Au revoir et à très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a affirmé vendredi que l'alliance militaire entre le Maroc et l'entité sioniste reflète un point de rencontre entre deux expansions régionales, ce qui les pousse à nier l'existence de leurs victimes, spoliées de leurs droits nationaux inaliénables. L'ombre des autorités marocaines indique clairement une escalade sans précédent de l'hégémonie sioniste rampante, a déclaré Lamamra dans une déclaration au site internet Crésus en marge du 8e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique qui s'est tenu à Wilaya de Doran à l'ouest d'Algérie. Il a ajouté que chaque palier franchi par les autorités marocaines dans cette alliance militaire malveillante les éloigne davantage de l'Algérie et de son peuple. Le Maroc a jeté de son dévolu sur le Sahara occidental et l'Algérie, ce qui rend ses jugements erronés à cet égard, a-t-il objecté en répondant aux fausses allégations qui lui sont attribuées par certains médias marocains concernant des gains politiques allégués en faveur de la République arabe sahraoui démocratique grâce au sommet tenu à Oran et le prochain sommet de la Ligue des États arabes qui se tiendra dans la capitale d'Algérie, Alger. Lamamra a poursuivi. La monodiplomatie marocaine, figée uniquement sur le Sahara occidental et l'Algérie, ne conçoit pas que la diplomatie algérienne est multidimensionnelle et multifonctionnelle au service de multiples objectifs nobles. Les autorités algériennes restent convaincues que dès lors qu'il s'agit de la visite du ministre israélien de la guerre au Maroc, c'est l'Algérie qui est visée. Alger accuse que les ennemis se mobilisent de plus en plus pour porter atteinte à l'Algérie. Il y a quelques jours, le ministre algérien des Affaires étrangères avait déclaré que son pays cherche à réunir les Arabes lors du prochain sommet, au cours duquel il s'est engagé à travailler pour rassembler les Arabes autour de dénominateurs communs, notamment en ce qui concerne les droits des Palestiniens. Il a dénoncé la propagande qui essaie de déformer la véritable image de l'Algérie et ceux qui ont des lobbies étrangers en France et aux États-Unis pour déformer l'image de l'Algérie et blanchir celle du Maroc. Depuis jeudi 2 décembre, dans l'état d'Oran, à l'ouest du pays, l'Algérie a accueilli le 8e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, organisé par l'Union africaine, sous le slogan « Aider les nouveaux membres africains du Conseil de sécurité des Nations Unies à se préparer pour régler les questions de paix et de sécurité sur le continent africain ». Il est à rappeler que le président algérien Abdelmadjid Tebboune avait indiqué la possibilité de la participation de la Syrie au prochain sommet arabe en Algérie. Au moins 36 civils maliens ont été tués par des terroristes près de Bandiagara vendredi. Les civils étaient dans un véhicule de transport. Les passagers ont été mitraillés et le véhicule a été brûlé. L'État a envoyé des forces de sécurité sur place, ont déclaré des autorités locales de Mopti qui ont requis l'anonymat. Un élu de la localité de Bandiagara a confirmé ce bilan et précise que parmi les victimes, il y a des enfants et des femmes et des disparus. L'attaque n'a été revendiquée par aucun de nombreux groupes armés qui sévissent dans le pays. Le Mali est livré depuis 2012 aux agissements de groupes affiliés à Al-Qaïda et à Daesh, ainsi qu'aux violences de toutes sortes perpétrées par des milices autoproclamées d'autodéfense et des bandits. Les forces régulières sont elles aussi accusées d'exactions. Les violences parties du Nord en 2012 se sont propagées au centre, au Burkina Faso et au Niger voisin. Président à un conseil ministériel au palais de Carthage, le président tunisien Kais Saied a examiné une série de projets de loi et décrets présidentiels, dont celui approuvant l'adhésion de la Tunisie à l'accord portant création de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, a-t-on appris jeudi auprès de la présidence de la République tunisienne. D'après la même source, le président Kais Saied a examiné également à l'ordre du jour du conseil ministériel un projet de décret portant approbation de l'accord conclu le 31 mai 2021 entre le gouvernement tunisien et le gouvernement de la République de Corée portant sur un prêt du Fonds de coopération coréen pour le développement économique. Un autre projet a été évoqué dans ce sens relatif à l'accord de prêt conclu en 14 juillet 2021 avec la Banque d'import-export de Corée du Sud pour contribuer au financement du projet de numérisation du système immobilier en Tunisie, toujours selon le service du président tunisien. Plusieurs autres décrets présidentiels portant sur des projets énergétiques ont été présents lors de ce conseil. En marge du dit conseil, le président tunisien a annoncé avoir approuvé un décret présidentiel qui considère le 17 décembre de chaque année la nouvelle date de célébration de la révolution tunisienne au lieu du 14 janvier. Le président béninois prévoit des réformes structurelles profondes au cours de l'année 2022 au sein des forces de sécurité et de défense en vue d'adopter son outil de défense aux nouvelles formes de menaces terroristes. A-t-on appris des documents budgétaires du ministère de la Défense nationale? Ces réformes vont de la redéfinition des missions des forces armées au réaménagement du maillage territorial par les unités selon les mêmes sources. Dans cette dynamique, le gouvernement entend relever au cours de l'année 2022 trois défis majeurs, à savoir le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées béninoises, le renforcement des liens armée-nation et l'optimisation du fonctionnement des services de défense, soulignent les documents. Le premier forum économique international des communes s'est ouvert vendredi à Yaoundé au Cameroun, créant une plateforme dans ce pays d'Afrique centrale pour attirer plus d'investissements dans les communes locales. Le forum co-organisé par le gouvernement et l'association des communes et villes unies du Cameroun a réuni plus de 500 fonctionnaires et investisseurs de 17 pays, ont indiqué des organisateurs. Ce forum est une opportunité pour les gens de connaître les grands potentiels que nous avons dans ce pays. C'est la première du genre dans notre pays et nous espérons promouvoir, à attirer des financements pour des projets communautaires à valeur ajoutée, a ajouté le vice-président de l'Association des communes et villes du Cameroun à l'ouverture de ce forum de 3 jours. Un tel forum apportera certainement un développement significatif à notre pays, a indiqué le ministre camerounais de la décentralisation et du développement local. Eh bien, chers amis, si touche à sa fin cette émission, merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophonie.
Thank you.